The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
34e section des scènes de la vie privée, tome 1, une double famille. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, une double famille, par Honoré de Balzac. 34e section. Pendant environ 15 jours qui s'écoulèrent entre la présentation officielle du jeune vicomte de Granville comme prétendu de Mademoiselle Bontemps et le jour solennel de son mariage, il vint assidûment trouver son ami dans le sombre parloir auquel il s'accoutuma. Ces longues visites eurent pour but d'épier le caractère d'Angélique, car sa prudence s'était heureusement réveillée le lendemain de son entrevue. Il surprit presque toujours sa future assise devant une petite table en bois de Sainte-Lucie et occupée à marquer elle-même le linge qui devait composer son trousseau. Angélique ne parla jamais la première de religion. Si le jeune avocat se plaisait à jouer avec le riche chapelet contenu dans un petit sac en velours vert, s'il contemplait en riant la relique qui accompagne toujours cet instrument de dévotion, Angélique lui prenait doucement le chapelet des mains en lui jetant un regard suppliant et, sans mot dire, le remettait dans le sac qu'elle serrait aussitôt. Si parfois Granville se hasardait malicieusement à déclamer contre certaines pratiques de la religion, la jolie Normande l'écoutait en lui opposant le sourire de la conviction. « Il ne faut rien en croire, ou croire tout ce que l'Église enseigne, » répondait-elle. « Voudriez-vous, pour la mère de vos enfants, d'une fille sans religion ? Non. Quel homme oserait être juge entre les incrédules et Dieu ? Eh bien, comment puis-je blâmer ce que l'Église admet ?» Angélique semblait animée par une si onctueuse charité. Le jeune avocat lui voyait tourner sur lui des regards si pénétrés qu'il fut parfois tenté d'embrasser la religion de sa prétendue. La conviction profonde où elle était de marcher dans le vrai sentier réveilla dans le cœur du futur magistrat des doutes qu'elle essayait d'exploiter. Granville commit alors l'énorme faute de prendre les prestiges du désir pour ceux de l'amour. Angélique fut si heureuse de concilier la voix de son cœur et celle du devoir en s'abandonnant à une inclination conçue dès son enfance, que l'avocat, trompé, ne put savoir laquelle de ces deux voix était la plus forte. Les jeunes gens ne sont-ils pas tous disposés à se fier aux promesses d'un joli visage, à conclure de la beauté de l'âme par celle des traits? Un sentiment indéfinissable les porte à croire que la perfection morale concorde toujours à la perfection physique. Si la religion n'eût pas permis à Angélique de se livrer à ses sentiments, il se serait bientôt séché dans son cœur comme une plante arrosée d'un acide mortel. Un amoureux aimé pouvait-il reconnaître un fanatisme si bien caché? Telle fut l'histoire des sentiments du jeune Granville pendant cette quinzaine dévorée comme un livre dont le dénouement intéresse. Angélique, attentivement épiée, lui parut être la plus douce de toutes les femmes, et il se surprit même à rendre grâce à Madame Bontemps, qui, en lui inculquant si fortement des principes religieux, l'avait en quelque sorte façonnée aux peines de la vie. Au jour choisi pour la signature du fatal contrat, Madame Bontemps fit solennellement jurer à son gendre de respecter les pratiques religieuses de sa fille, de lui donner une entière liberté de conscience, de la laisser communier, aller à l'église, à confesse, autant qu'elle le voudrait, et de ne jamais la contrarier dans le choix de ses directeurs. En ce moment solennel, Angélique contempla son futur d'un air si pur et si candide que Granville n'hésita pas à prêter le serment demandé. Un sourire effleura les lèvres de l'abbé Fontanon, homme pâle qui dirigeait les consciences de la maison. Par un léger mouvement de tête, Mademoiselle Bontemps promit à son ami de ne jamais abuser de cette liberté de conscience. Quant au vieux comte, il siffla tout bas l'air de « Va-t'en voir s'ils viennent ». Après quelques jours accordés au retour de noces si fameux en province, Granville et sa femme revinrent à Paris, où le jeune avocat fut appelé par sa nomination aux fonctions d'avocat général près la cour impériale de la Seine. Quand les deux époux y cherchèrent un appartement, Angélique employa l'influence que la lune de miel prête à toutes les femmes pour déterminer Granville à prendre un grand appartement situé au rez-de-chaussée d'un hôtel qui faisait le coin de la vieille rue du Temple et de la rue Neuve Saint-François. La principale raison de son choix fut que cette maison se trouvait à deux pas de la rue d'Orléans, où il y avait une église, et voisine d'une petite chapelle, sise rue Saint-Louis. « Il est d'une bonne ménagère de faire des provisions, » lui répondit son mari en riant. Angélique lui fit observer avec justesse que le quartier du Marais avoisine le palais de justice et que les magistrats qu'il venait de visiter y demeuraient. Un jardin assez vaste donnait, pour un jeune ménage, du prix à l'appartement. Les enfants, si le ciel leur en envoyait, pourraient y prendre l'air. La cour était spacieuse, les écuries étaient belles. L'avocat général désirait habiter un hôtel de la chaussée d'Antin où tout est jeune et vivant, où les modes apparaissent dans leurs nouveautés, où la population des boulevards est élégante, d'où il y a moins de chemin à faire pour gagner les spectacles et rencontrer les distractions. Mais il fut obligé de céder aux patelineries d'une jeune femme qui réclamait une première grâce, et pour lui complaire il s'enterra dans le Marais. Les fonctions de Granville nécessitèrent un travail d'autant plus assidu qu'il fut nouveau pour lui. Il s'occupa donc avant tout de l'ameublement de son cabinet et de l'aménagement de sa bibliothèque. Il s'installa promptement dans une pièce bientôt encombrée de dossiers et laissa sa jeune femme diriger la décoration de la maison. Il jeta d'autant plus volontiers Angélique dans l'embarras des premières acquisitions de ménage, source de tant de plaisir et de souvenirs pour les jeunes femmes, qu'il fut honteux de la priver de sa présence plus souvent que ne le voulaient les lois de la lune de miel. Une fois au fait de son travail, l'avocat général permit à sa femme de le prendre par le bras, de le tirer hors de son cabinet, et de l'emmener pour lui montrer l'effet des ameublements et des décorations qu'il n'avait encore vus qu'en détail ou par partie. S'il est vrai, d'après un adage, qu'on puisse juger une femme en voyant la porte de sa maison, les appartements doivent traduire son esprit avec encore plus de fidélité. Soit que Madame de Granville eût accordé sa confiance à des tapissiers sans goût, soit qu'elle eût inscrit son propre caractère dans un monde de choses ordonnées par elle, le jeune magistrat fut surpris de la sécheresse et de la froide solennité qui régnait dans ses appartements. Il n'y aperçut rien de gracieux. Tout y était discord, rien ne récréait les yeux. L'esprit de rectitude et de petitesse empreint dans le parloir de Bayeux revivait dans son hôtel, sous de larges lambris circulairement creusés et ornés de ces arabesques dont les longs filets contournés sont de si mauvais goût. Dans le désir d'excuser sa femme, le jeune homme revint sur ses pas, examina de nouveau la longue antichambre haute d'étage par laquelle on entrait dans l'appartement. La couleur des boiseries demandées au peintre par sa femme était trop sombre, et le velours d'un vert très foncé qui couvrait les banquettes ajoutait au sérieux de cette pièce, peu importante il est vrai, mais qui donne toujours l'idée d'une maison, de même qu'on juge l'esprit d'un homme sur sa première phrase. Une antichambre est une espèce de préface qui doit tout annoncer, mais ne rien promettre. Le jeune substitut se demanda si sa femme avait pu choisir la lampe à lanterne antique qui se trouvait au milieu de cette salle nue, pavée d'un marbre blanc et noir, décorée d'un papier où étaient simulées des assises de pierre sillonnées çà et là de mousse verte. Un riche mais vieux baromètre était accroché au milieu d'une des parois, comme pour en mieux faire sentir le vide. À cet aspect, le jeune homme regarda sa femme. Il la vit si contente des galons rouges qui bordaient les rideaux de percale, si contente du baromètre et de la statue décente, ornement d'un grand poêle gothique, qu'il n'eut pas le barbare courage de détruire de si fortes illusions. Au lieu de condamner sa femme, Granville se condamna lui-même. Il s'accusa d'avoir manqué à son premier devoir, qui lui commandait de guider à Paris les premiers pas d'une jeune fille élevée à Bayeux. Sur cet échantillon, qui ne devinerait pas la décoration des autres pièces. Que pouvait-on attendre d'une jeune femme qui prenait l'alarme en voyant les jambes nues d'une cariatide, qui repoussait avec vivacité un candélabre, un flambeau, un meuble, dès qu'elle y apercevait la nudité d'un torse égyptien? À cette époque, l'école de David arrivait à l'apogée de sa gloire. Tout se ressentait en France de la correction de son dessin et de son amour pour les formes antiques, qui fit en quelque sorte de sa peinture une sculpture coloriée. Aucune de toutes les inventions du luxe impérial n'obtint droit de bourgeoisie chez madame de Granville. L'immense salon carré de son hôtel conserva le blanc et l'or fané qui l'ornaient au temps de Louis XV, et où l'architecte avait prodigué les grilles en losanges et ses insupportables festons dus à la stérile fécondité des crayons de cette époque. Si l'harmonie eût régné du moins, si les meubles eussent fait affecter à l'acajou moderne les formes contournées mises à la mode par le goût corrompu de Boucher, la maison d'Angélique n'aurait offert que le plaisant contraste de jeunes gens vivant au XIXe siècle comme s'ils eussent appartenu au XVIIIe. Mais une foulée de choses y produisait des antithèses ridicules pour les yeux. Les consoles, les pendules, les flambeaux représentaient ces attributs guerriers que les triomphes de l'Empire rendirent si chers à Paris. Ces casques grecs, ces épées romaines croisées, les boucliers dus à l'enthousiasme militaire et qui décoraient les meubles les plus pacifiques, ne s'accordaient guère avec les délicates et prolixes arabesques des lys de madame de Pompadour. La dévotion porte à je ne sais quelle humilité fatigante qui n'exclut pas l'orgueil. Soit modestie, soit penchant, madame de Granville semblait avoir horreur des couleurs douces et claires. Peut-être aussi pensa-t-elle que la pourpre et le brun convenaient à la dignité du magistrat. Mais comment une jeune fille accoutumée à une vie austère aurait-elle pu concevoir ces voluptueux divans qui inspirent de mauvaises pensées, ces boudoirs élégants et perfides où s'ébauchent les péchés? Le pauvre magistrat fut désolé. Au ton d'approbation par lequel il souscrivit aux éloges que sa femme se donnait elle-même, elle s'aperçut que rien ne plaisait à son mari. Elle manifesta tant de chagrin de n'avoir pas réussi, que l'amoureux Granville vit une preuve d'amour dans cette peine profonde, au lieu d'y voir une blessure faite à l'amour-propre. Une jeune fille subitement arrachée à la médiocrité des idées de province, inhabile aux coquetteries, à l'élégance de la vie parisienne, pouvait-elle donc mieux faire? Le magistrat préféra croire que les choix de sa femme avaient été dominés par les fournisseurs, plutôt que de s'avouer la vérité. Moins amoureux, il eût senti que les marchands, prompts à deviner l'esprit de leur chaland, avaient béni le ciel de leur avoir envoyé une jeune dévote sans goût pour les aider à se débarrasser des choses passées de mode. Il consola donc sa jolie Normande. « Le bonheur, ma chère Angélique, ne nous vient pas d'un meuble plus ou moins élégant. Il dépend de la douceur, de la complaisance et de l'amour d'une femme. Mais c'est mon devoir de vous aimer. » Et jamais devoir ne me plaira tant à accomplir, reprit doucement Angélique. La nature a mis dans le cœur de la femme un tel désir de plaire, un tel besoin d'amour, que, même chez une jeune dévote, les idées d'avenir et de salut doivent succomber sous les premières joies de l'hyménée. Aussi, depuis le mois d'avril, époque à laquelle ils s'étaient mariés, jusqu'au commencement de l'hiver, les deux époux vécurent-ils dans une parfaite union. L'amour et le travail ont la vertu de rendre un homme assez indifférent aux choses extérieures. Obligé de passer au palais la moitié de la journée, appelé à débattre les graves intérêts de la vie ou de la fortune des hommes, Granville put moins qu'un autre apercevoir certaines choses dans l'intérieur de son ménage. Si le vendredi sa table se trouva servie en maigre, si par hasard il demanda sans l'obtenir un plat de viande, sa femme, à qui l'évangile interdisait tout mensonge, sut néanmoins, par de petites ruses permises dans l'intérêt de la religion, rejeter son dessein prémédité sur son étourderie ou sur le dénouement des marchés. Elle se justifia souvent aux dépens du cuisinier et alla quelquefois jusqu'à le gronder. À cette époque, les jeunes magistrats n'observaient pas comme aujourd'hui les jeûnes, les quatre-temps et les veilles de fête. Ainsi Granville ne remarqua point d'abord la périodicité de ces repas maigres que sa femme eut d'ailleurs le soin perfide de rendre très délicats au moyen de sarcelles, de poules d'eau, de pâtés aux poissons, dont les chairs amphibies ou l'assaisonnement trompaient le goût. Le magistrat vécut donc très orthodoxement, sans le savoir, et fit son salut incognito. Les jours ordinaires, il ignorait si sa femme allait ou non à la messe. Les dimanches, par une condescendance assez naturelle, il l'accompagnait à l'église, comme pour lui tenir compte de ce qu'elle lui sacrifiait quelquefois les vêpres. Les spectacles étant insupportables en été à cause des chaleurs, Granville n'eut pas même l'occasion d'une pièce à succès pour proposer à sa femme de la mener à la comédie. Ainsi, la grave question du théâtre ne fut pas agitée. Enfin, dans les premiers moments d'un mariage auquel un homme a été déterminé par la beauté d'une jeune fille, il lui est difficile de se montrer exigeant dans ses plaisirs. La jeunesse est plus gourmande que friande, et d'ailleurs la possession seule est un charme. Comment reconnaîtrait-on la froideur, la dignité ou la réserve d'une femme quand on lui prête l'exaltation que l'on sent, quand elle se colore du feu dont on est animé? Il faut arriver à une certaine tranquillité conjugale pour voir qu'une dévote attend l'amour les bras croisés. Granville se crut donc assez heureux jusqu'au moment où un événement funeste vint influer sur les destinées de son mariage. Au mois de novembre 1807, le chanoine de la cathédrale de Bayeux, qui jadis dirigeait les consciences de Madame Bontemps et de sa fille, vint à Paris, amené par l'ambition de parvenir à l'une des cures de la capitale, poste qu'il envisageait peut-être comme le marchepied d'un évêché. En ressaisissant son ancien empire sur son ouaille, il frémit de la trouver déjà si changée par l'air de Paris et voulut la ramener dans son froid bercail. Effrayé par les remontrances de l'ex-chanoine, homme de 38 ans environ, qui apportait au milieu du clergé de Paris, si tolérant et si éclairé, cette âpreté du catholicisme provincial, cette inflexible bigoterie dont les exigences multipliées sont autant de liens pour les âmes timorées, Madame de Granville fit pénitence et revint à son jansénisme. Il serait fatigant de peindre avec exactitude les incidents qui amenèrent insensiblement le malheur au sein de ce ménage. Il suffira peut-être de raconter les principaux faits sans les ranger scrupuleusement par époque et par ordre. Cependant, la première mésintelligence de ces jeunes époux fut assez frappante. Quand Granville conduisit sa femme dans le monde, elle ne fit aucune difficulté d'aller aux réunions graves, aux dîners, aux concerts, aux assemblées des magistrats placés au-dessus de son mari par la hiérarchie judiciaire. Mais elle sut, pendant quelque temps, prétexter des migraines toutes les fois qu'il s'agissait d'un bal. Un jour, Granville, impatienté de ses indispositions de commande, supprima la lettre qui annonçait un bal chez un conseiller d'État. Il trompa sa femme par une invitation verbale, et dans une soirée où sa santé n'avait rien d'équivoque, il la produisit au milieu d'une fête magnifique. « Ma chère, lui dit-il au retour en lui voyant un air triste qui l'offensa, votre condition de femme, le rang que vous occupez dans le monde et la fortune dont vous jouissez, vous imposent des obligations qu'aucune loi divine ne saurait abroger. N'êtes-vous pas la gloire de votre mari? Vous devez donc venir au bal quand j'y vais, et y paraître convenablement. Mais, mon ami, qu'avait donc ma toilette de si malheureux? Il s'agit de votre air, ma chère. Quand un jeune homme vous parle et vous aborde, vous devenez si sérieuse qu'un plaisant pourrait croire à la fragilité de votre vertu. Vous semblez craindre qu'un sourire ne vous compromette. Vous aviez vraiment l'air de demander à Dieu le pardon des péchés qui pouvaient se commettre autour de vous. Le monde, mon cher ange, n'est pas un couvent. Mais, puisque tu parles de toilette, je t'avouerai que c'est aussi un devoir pour toi de suivre les modes et les usages du monde. Voudriez-vous que je montrasse mes formes comme ces femmes effrontées qui se décollettent de manière à laisser plonger des regards impudiques sur leurs épaules nues, sur... Il y a de la différence, ma chère, dit le substitut en l'interrompant, entre découvrir tout le buste et donner de la grâce à son corsage. Vous avez un triple rang de ruches de tulle qui vous enveloppe le cou jusqu'au menton. Il semble que vous ayez sollicité votre couturière d'ôter toute forme gracieuse à vos épaules et au contour de votre sein avec autant de soin qu'une coquette en met à obtenir de la sienne des robes qui dessinent les formes les plus secrètes. Votre buste est enseveli sous des plis si nombreux que tout le monde se moquait de votre réserve affectée. Vous souffririez si je vous répétais les discours saugrenus que l'on a tenus sur vous. Ceux à qui ces obscénités plaisent ne seront pas chargés du poids de nos fautes, répondit sèchement la jeune femme. Vous n'avez pas dansé, demanda Granville. Je ne danserai jamais, répliqua-t-elle. Si je vous disais que vous devez danser, reprit vivement le magistrat. Oui, vous devez suivre les modes, porter des fleurs dans vos cheveux, mettre des diamants. Songez donc, ma belle, que les gens riches, et nous le sommes, sont obligés d'entretenir le luxe dans un état. Ne vaut-il pas mieux faire prospérer les manufactures que de répandre son argent en aumônes par les mains du clergé ? Vous parlez en homme d'État, dit Angélique. Et vous en homme d'Église, répondit-il vivement. La discussion devint très aigre. Madame Granville mit dans ses réponses, toujours douces et prononcées d'un son de voix aussi clair que celui d'une sonnette d'église, un entêtement qui trahissait une influence sacerdotale. Quand en réclamant les droits que lui constituait la promesse de Granville, elle dit que son confesseur lui défendait spécialement d'aller au bal, le magistrat essaya de lui prouver que ce prêtre outrepassait les règlements de l'église. Cette dispute, odieuse, théologique, fut renouvelée avec beaucoup plus de violence et d'aigreur de part et d'autre quand Granville voulut mener sa femme au spectacle. Enfin, le magistrat, dans le seul but de battre en brèche la pernicieuse influence exercée sur sa femme par l'ex-chanoine, engagea la querelle de manière à ce que Madame de Granville, mise au défi, écrivit en cour de Rome sur la question de savoir si une femme pouvait, sans compromettre son salut, se décolleter, aller au bal et au spectacle pour complaire à son mari. La réponse du vénérable Pie VII ne tarda pas. Elle condamnait hautement la résistance de la femme et blâmait le confesseur. Cette lettre, véritable catéchisme conjugal, semblait avoir été dictée par la voix tendre de Fénelon, dont la grâce et la douceur y respiraient. Une femme est bien partout où la conduit son époux. Si elle commet des péchés par son ordre, ce ne sera pas à elle à en répondre un jour. Ces deux passages de l'homélie du pape le firent accuser d'irréligion par Madame de Granville et par son confesseur. Mais avant que le bref n'arrivât, le substitut s'aperçut de la stricte observance des lois ecclésiastiques que sa femme lui imposait les jours maigres, et il ordonna à ses gens de lui servir du gras pendant toute l'année. Quelque déplaisir que cet ordre causa à sa femme, Granville, qui du gras et du maigre se souciait fort peu, le maintint avec une fermeté virile. La plus faible créature vivante et pensante n'est-elle pas blessée dans ce qu'elle a de plus cher quand elle accomplit, par l'instigation d'une autre volonté que la sienne, une chose qu'elle eut naturellement faite? De toutes les tyrannies, la plus odieuse est celle qui ôte perpétuellement à l'âme le mérite de ses actions et de ses pensées. On abdique sans avoir régné. La parole la plus douce à prononcer, le sentiment le plus doux à exprimer, expirent quand nous les croyons commandés. Bientôt, le jeune magistrat en arriva à renoncer à revoir ses amis, à donner une fête ou un dîner. Sa maison semblait s'être couverte d'un crêpe. Une maison dont la maîtresse est dévote prend un aspect tout particulier. Les domestiques, toujours placés sous la surveillance de la femme, ne sont choisis que parmi ces personnes soi-disant pieuses qui ont des figures à elle. De même que le garçon le plus jovial, entré dans la gendarmerie, aura le visage gendarme, de même les gens qui s'adonnent aux pratiques de la dévotion contractent un caractère de physionomie uniforme. L'habitude de baisser les yeux, de garder une attitude de componction, les revêt d'une livrée hypocrite que les fourbes savent prendre à merveille. Puis, les dévotes forment une sorte de république, et elles se connaissent toutes. Les domestiques, qu'elles se recommandent les unes aux autres, sont comme une race à part conservée par elles à l'instar de ces amateurs de chevaux qui n'en admettent pas un dans leur écurie, dont l'extrait de naissance ne soit en règle. Plus les prétendus impies viennent à examiner une maison dévote, plus ils reconnaissent alors que tout y est empreint de je ne sais quelle disgrâce. Ils y trouvent tout à la fois une apparence d'avarice et de mystère, comme chez les usuriers, et cette humidité parfumée d'encens qui refroidit l'atmosphère des chapelles. Cette régularité mesquine, cette pauvreté d'idées que tout trahit, ne s'exprime que par un seul mot, et ce mot est bigoterie. Dans ces sinistres et implacables maisons, la bigoterie se peint dans les meubles, dans les gravures, dans les tableaux. Le parler y est bigot, le silence est bigot, et les figures sont bigotes. La transformation des choses et des hommes en bigoterie est un mystère inexplicable, mais le fait est là. Chacun peut avoir observé que les bigots ne marchent pas, ne s'asseyent pas, ne parlent pas comme marchent, s'asseyent et parlent les gens du monde. Chez eux l'on est gêné, chez eux l'on ne rit pas. Chez eux la raideur, la symétrie règnent en tout, depuis le bonnet de la maîtresse de la maison jusqu'à sa pelote aux épingles. Les regards n'y sont pas francs, les gens y semblent des ombres, et la dame du logis paraît assise sur un trône de glace. Un matin, le pauvre Granville remarqua avec douleur et tristesse tous les symptômes de la bigoterie dans sa maison. Il se rencontre de par le monde certaines sociétés où les mêmes effets existent sans être produits par les mêmes causes. L'ennui trace autour de ces maisons malheureuses un cercle d'airain qui renferme l'horreur du désert et l'infini du vide. Un ménage n'est pas alors un tombeau, mais quelque chose de pire, un couvent. Au sein de cette sphère glaciale, le magistrat considéra sa femme sans passion. Il remarqua, non sans une vive peine, l'étroitesse d'idées que trahissait la manière dont les cheveux étaient implantés sur le front bas et légèrement creusé. Il aperçut dans la régularité si parfaite des traits du visage je ne sais quoi d'arrêté, de rigide, qui lui rendit bientôt haïssable la feinte douceur par laquelle il fut séduit. Il devina qu'un jour ses lèvres minces pourraient lui dire un malheur arrivant « C'est pour ton bien, mon ami ». La figure de madame de Granville prit une teinte blafarde, une expression sérieuse qui tuait la joie chez ceux qui l'approchaient. Ce changement fut-il opéré par les habitudes ascétiques d'une dévotion qui n'est pas plus la piété que l'avarice n'est l'économie? Était-il produit par la sécheresse naturelle aux âmes bigotes? Il serait difficile de prononcer. La beauté sans expression est peut-être une imposture. L'imperturbable sourire que la jeune femme fit contracter à son visage en regardant Granville paraissait être chez elle une formule jésuitique de bonheur par laquelle elle croyait satisfaire à toutes les exigences du mariage. Sa charité blessée, sa beauté sans passion semblait une monstruosité à ceux qui la connaissaient, et la plus douce de ses paroles impatientait. Elle n'obéissait pas à des sentiments, mais à des devoirs. Il est des défauts qui, chez une femme, peuvent céder aux leçons fortes données par l'expérience ou par un mari, mais rien ne peut combattre la tyrannie des fausses idées religieuses. Une éternité bienheureuse à conquérir, mise en balance avec un plaisir mondain, triomphe de tout et fait tout supporter. N'est-ce pas l'égoïsme divinisé, le moi par-delà le tombeau? Aussi, le pape fut-il condamné au tribunal de l'infaillible chanoine et de la jeune dévote. Ne pas avoir tort est un des sentiments qui remplace tous les autres chez ces âmes despotiques. Depuis quelque temps, il s'était établi un secret combat entre les idées des deux époux, et le jeune magistrat se fatigua bientôt d'une lutte qui ne devait jamais cesser. Quel homme, quel caractère résiste à la vue d'un visage amoureusement hypocrite et à une remontrance catégorique opposée aux moindres volontés? Quel parti prendre contre une femme qui se sert de votre passion pour protéger son insensibilité, qui semble résolue à rester doucement, inexorable, se prépare à jouer le rôle de victime avec délice et regarde un mari comme un instrument de Dieu, comme un mal dont les flagellations lui évitent celles du purgatoire? Quelles sont les peintures par lesquelles on pourrait donner l'idée de ces femmes qui font haïr la vertu en outrant les plus doux préceptes d'une religion que saint Jean résumait par « Aimez-vous les uns les autres » Existait-il dans un magasin de mode un seul chapeau condamné à rester en étalage ou à partir pour les îles? Granville était sûr de voir sa femme s'emparer. S'il se fabriquait une étoffe d'une couleur ou d'un dessin malheureux, elle s'en affublait. Ces pauvres dévotes sont désespérantes dans leur toilette. Le manque de goût est un des défauts qui sont inséparables de la fausse dévotion. Ainsi, dans cette intime existence qui veut le plus d'expansion, Granville fut sans compagne. Il alla seul dans le monde, dans les fêtes, au spectacle. Rien chez lui ne sympathisait avec lui. Un grand crucifix placé entre le lit de sa femme et le sien était là comme le symbole de sa destinée. Ne représente-t-il pas une divinité mise à mort, un homme-dieu tué dans toute la beauté de la vie et de la jeunesse? L'ivoire de cette croix avait moins de froideur qu'Angélique, crucifiant son mari au nom de la vertu. Ce fut entre leurs deux lits que naquit le malheur. Cette jeune femme ne voyait là que des devoirs dans les plaisirs de l'hyménée. Là, par un mercredi des cendres, se leva l'observance des jeunes, pâle et livide figure, qui d'une voix brève ordonna un carême complet, sans que Granville jugeât convenable d'écrire cette fois au pape, afin d'avoir l'avis du consistoire sur la manière d'observer le carême, les quatre temps et les veilles de grandes fêtes. Le malheur du jeune magistrat fut immense. Il ne pouvait même pas se plaindre. Qu'avait-il à dire? Il possédait une femme jeune, jolie, attachée à ses devoirs, vertueuse, le modèle de toutes les vertus. Elle accouchait chaque année d'un enfant, les nourrissait tous elle-même et les élevait dans les meilleurs principes. La charitable Angélique fut promue ange. Les vieilles femmes qui composaient la société au sein de laquelle elle vivait, car à cette époque les jeunes femmes ne s'étaient pas encore avisées de se lancer par ton dans la haute dévotion, admirèrent tout le dévouement de madame de Granville et la regardèrent sinon comme une vierge, au moins comme une martyre. Elles accusaient non pas les scrupules de la femme, mais la barbarie procréatrice du mari. Insensiblement, Granville, accablé de travail, sevré de plaisir et fatigué du monde où il errait solitaire, tomba vers 32 ans dans le plus affreux marasme. La vie lui fut odieuse. Ayant une trop haute idée des obligations que lui imposait sa place pour donner l'exemple d'une vie irrégulière, il essaya de s'étourdir par le travail et entreprit alors un grand ouvrage sur le droit. Mais il ne jouit pas longtemps de cette tranquillité monastique sur laquelle il comptait. Fin de la 34e section. Trente-cinquième section des scènes de la vie privée, tome 1, une double famille. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scène de la vie privée, tome 1, une double famille, par Honoré de Balzac, 35e section. Lorsque la divine Angélique le vit désertant les fêtes du monde et travaillant chez lui avec une sorte de régularité, elle essaya de le convertir. Un véritable chagrin pour elle était de savoir à son mari des opinions peu chrétiennes. Elle pleurait quelquefois en pensant que si son époux venait à périr, il mourrait dans l'impénitence finale, sans que jamais elle pût espérer de l'arracher aux flammes éternelles de l'enfer. Granville fut donc en butte aux petites idées, aux raisonnements vides, aux étroites pensées par lesquelles sa femme, qui croyait avoir remporté une première victoire, voulut essayer d'en obtenir une seconde en le ramenant dans le giron de l'église. Ce fut là le dernier coup. Quoi de plus affligeant que ces luttes sourdes où l'entêtement des dévotes voulait l'emporter sur la dialectique d'un magistrat? Quoi de plus effrayant à peindre que ces aigres pointilleries auxquelles les gens passionnés préfèrent des coups de poignard? Granville déserta sa maison, où tout lui devenait insupportable. Ses enfants, courbés sous le despotisme froid de leur mère, n'osaient suivre leur père au spectacle, et Granville ne pouvait leur procurer aucun plaisir sans leur attirer des punitions de leur terrible mère. Cet homme si aimant fut amené à une indifférence, à un égoïsme pire que la mort. Il sauva du moins ses fils de cet enfer en les mettant de bonne heure au collège et se réservant le droit de les diriger. Il intervenait rarement entre la mère et les filles, mais il résolut de les marier aussitôt qu'elles atteindraient l'âge de nubilité. S'il eût voulu prendre un parti violent, rien ne l'aurait justifié. Sa femme, appuyée par un formidable cortège de douairières, l'aurait fait condamner par la terre entière. Granville n'eut donc d'autre ressource que de vivre dans un isolement complet. Mais courbé sous la tyrannie du malheur, ses traits flétris par le chagrin et par les travaux lui déplaisaient à lui-même. Enfin, ses liaisons, son commerce avec les femmes du monde auprès desquelles il désespéra de trouver des consolations, il les redoutait. L'histoire didactique de ce triste ménage n'offrit, pendant les 13 années qui s'écoulèrent de 1807 à 1821, aucune scène digne d'être rapportée. Madame de Granville resta exactement la même du moment où elle perdit le cœur de son mari que pendant les jours où elle se disait heureuse. Elle fit des neuvaines pour prier Dieu et les saints de l'éclairer sur les défauts qui déplaisaient à son époux et de lui enseigner les moyens de ramener la brebis égarée. Mais plus ses prières avaient de ferveur, moins Granville paraissait au logis. Depuis 5 ans environ, l'avocat général à qui la restauration donna de hautes fonctions dans la magistrature s'était logé à l'entresol de son hôtel, pour éviter de vivre avec la comtesse de Granville. Chaque matin, il se passait une scène qui, s'il faut en croire les médisances du monde, se répète au sein de plus d'un ménage où elle est produite par certaines incompatibilités d'humeur, par des maladies morales ou physiques, ou par des travers qui conduisent bien des mariages au malheur, retracés dans cette histoire. Sur les 8 heures du matin, une femme de chambre assez semblable à une religieuse venait sonner à l'appartement du comte de Granville. Introduite dans le salon qui précédait le cabinet du magistrat, elle redisait au valet de chambre, et toujours du même ton, le message de la veille. « Madame fait demander à monsieur le comte s'il a bien passé la nuit et si elle aura le plaisir de déjeuner avec lui. » « Monsieur, répondait le valet de chambre après être allé parler à son maître, présente ses hommages à madame la comtesse et la prie d'agréer ses excuses. Une affaire importante l'oblige à se rendre au palais. » Un instant après, la femme de chambre se présentait de nouveau et demandait de la part de madame si elle aurait le bonheur de voir monsieur le comte avant son départ. « Il est parti, répondait le valet, tandis que souvent le cabriolet était encore dans la cour. Ce dialogue par ambassadeur devint un cérémonial quotidien. Le valet de chambre de Granville, qui, favori de son maître, causa plus d'une querelle dans le ménage par son irréligion et par le relâchement de ses mœurs, se rendait même quelquefois par forme dans le cabinet où son maître n'était pas et revenait faire les réponses d'usage. L'épouse, affligée, guettait toujours le retour de son mari, se mettait sur le perron afin de se trouver sur son passage et arrivait devant lui comme un remords. La taquinerie vétilleuse qui anime les caractères monastiques faisait le fond de celui de madame de Granville, qui, alors âgée de 35 ans, paraissait en avoir 40. Quand, obligé par le décorum, Granville adressait la parole à sa femme ou restait à dîner au logis, heureuse de lui imposer sa présence, ses discours aigres doux et l'insupportable ennui de sa société bigote, elle essayait alors de le mettre en faute devant ses gens et ses charitables amis. La présidence d'une cour royale fut offerte au comte de Granville. Alors très bien en cour, il pria le ministère de le laisser à Paris. Ce refus, dont les raisons ne furent connues que du garde des Sceaux, suggéra les plus bizarres conjectures aux intimes amis et aux confesseurs de la comtesse. Granville, riche de 100 000 livres de rente, appartenait à l'une des meilleures maisons de la Normandie. Sa nomination à une présidence était un échelon pour arriver à la pairie. D'où venait ce peu d'ambition? D'où venait l'abandon de son grand ouvrage sur le droit? D'où venait cette dissipation qui, depuis près de 6 années, l'avait rendu étranger à sa maison, à sa famille, à ses travaux, à tout ce qui devait lui être cher? Le confesseur de la comtesse, qui pour parvenir à un évêché comptait autant sur l'appui des maisons où il régnait que sur les services rendus à une congrégation de laquelle il fut l'un des plus ardents propagateurs, se trouva désappointé par le refus de Granville et tâcha de le calomnier par des suppositions. Si monsieur le comte avait tant de répugnance pour la province, peut-être s'effrayait-il de la nécessité où il serait d'y mener une conduite régulière? Forcé de donner l'exemple des bonnes mœurs, il vivrait avec la comtesse, de laquelle une passion illicite pouvait seule l'éloigner. Une femme aussi pure que madame de Granville reconnaîtrait-elle jamais les dérangements survenus dans la conduite de son mari? Les bonnes amies transformèrent en vérité ces paroles qui malheureusement n'étaient pas des hypothèses, et madame de Granville fut frappée comme d'un coup de foudre. Sans idée sur les mœurs du grand monde, ignorant l'amour et ses folies, Angélique était si loin de penser que le mariage pût comporter des incidents différents de ceux qui lui aliènent le cœur de Granville, qu'elle le crut incapable de fautes qui, pour toutes les femmes, sont des crimes. Quand le comte ne réclama plus rien d'elle, elle avait imaginé que le calme dont il paraissait jouir était dans la nature. Enfin, comme elle lui avait donné tout ce que son cœur pouvait renfermer d'affection pour un homme, et que les conjectures de son confesseur ruinaient complètement les illusions dont elle s'était nourrie jusqu'en ce moment, elle prit la défense de son mari, mais sans pouvoir détruire un soupçon si habilement glissé dans son âme. Ses appréhensions causèrent de tels ravages dans sa faible tête qu'elle en tomba malade, et devint la proie d'une fièvre lente. Ces événements se passaient pendant le carême de l'année 1822. Elle ne voulut pas consentir à cesser ses austérités et arriva lentement à un état de consomption qui fit trembler pour ses jours. Les regards indifférents de Granville la tuaient. Les soins et les attentions du magistrat ressemblaient à ceux qu'un neveu s'efforce de prodiguer à un vieil oncle. Quoique la comtesse eût renoncé à son système de taquinerie et de remontrance, et qu'elle essayât d'accueillir son mari par de douces paroles, l'aigreur de la dévote perçait et détruisait souvent par un mot l'ouvrage d'une semaine. Vers la fin du mois de mai, les chaudes haleines du printemps, un régime plus nourrissant que celui du carême, rendirent quelque force à madame de Granville. Un matin, au retour de la messe, elle vint s'asseoir dans son petit jardin sur un banc de pierre, où les caresses du soleil lui rappelèrent les premiers jours de son mariage. Elle embrassa sa vie d'un coup d'œil, afin de voir en quoi elle avait pu manquer à ses devoirs de mère et d'épouse. L'abbé Fontanon apparut alors dans une agitation difficile à décrire. « Vous serait-il arrivé quelque malheur, mon père ?» lui demanda-t-elle avec une filiale sollicitude. « Ah, je voudrais, répondit le père Normand, que toutes les infortunes dont vous afflige la main de Dieu me fussent départies. Mais, ma respectable amie, c'est des épreuves auxquelles il faut savoir vous soumettre. Et peut-il m'arriver des châtiments plus grands que ceux par lesquels sa providence m'accable en se servant de mon mari comme d'un instrument de colère ? Préparez-vous, ma fille, à plus de mal encore que nous n'en supposions jadis avec vos pieuses amies. « Je dois alors remercier Dieu, répondit la comtesse, de ce qu'il daigne se servir de vous pour me transmettre ses volontés, plaçant ainsi, comme toujours, les trésors de sa miséricorde auprès des fléaux de sa colère. Comme jadis en bannissant Agar, il lui découvrait une source dans le désert. Il a mesuré vos peines à la force de votre résignation et au poids de vos fautes. Parlez, je suis prête à tout entendre. » À ces mots, la comtesse leva les yeux au ciel et ajouta « Parlez, monsieur Fontanon. » « Depuis 7 ans, monsieur Granville commet le péché d'adultère avec une concubine de laquelle il a 2 enfants, et il a dissipé pour ce ménage adultérin plus de 500 000 francs qui devraient appartenir à sa famille légitime. » « Il faudrait que je le visse de mes propres yeux, » dit la comtesse. « Gardez-vous-en bien, » s'écria l'abbé. « Vous devez pardonner, ma fille, et attendre dans la prière que Dieu éclaire votre époux, à moins d'employer contre lui les moyens que vous offrent les lois humaines. » La longue conversation que l'abbé Fontanon eut alors avec sa pénitente produisit un changement violent dans la comtesse. Elle le congédia, montra sa figure presque colorée à ces gens qui furent effrayés de son activité de folle. Elle commanda d'atteler ses chevaux, ordre qu'elle donnait rarement, elle les décommanda, changea d'avis 20 fois dans la même heure, mais enfin, comme si elle prenait une grande résolution, elle partit sur les 3 heures, laissant sa maison étonnée d'une si subite révolution. « Monsieur doit-il revenir dîner ? » avait-elle demandé au valet de chambre, à qui elle ne parlait jamais. « Non, madame. L'avez-vous conduit au palais ce matin ? » ?»« Oui, madame. » « N'est-ce pas aujourd'hui lundi ? » ?»« Oui, madame. » »« On va donc maintenant au palais le lundi. »« Que le diable t'emporte !» s'écria le valet en voyant partir sa maîtresse qui dit au cocher « Rue Têtebout. » Mademoiselle de Bellefeuille était en deuil et pleurait. Auprès d'elle, Roger tenait une des mains de son ami entre les siennes, gardait le silence et regardait tour à tour le petit Charles qui, ne comprenant rien au deuil de sa mère, restait muet en la voyant pleurer, et le berceau où dormait Eugénie, et le visage de Caroline sur lequel la tristesse ressemblait à une pluie tombant à travers les rayons d'un joyeux soleil. « Eh bien oui, mon ange, » dit Roger après un long silence, « voilà le grand secret, je suis marié. Mais un jour, je l'espère, nous ne ferons qu'une même famille. Ma femme est depuis le mois de mars dans un état désespéré. Je ne souhaite pas sa mort, mais s'il plaît à Dieu de l'appeler à lui, je crois qu'elle sera plus heureuse dans le paradis qu'au milieu d'un monde dont ni les peines ni les plaisirs ne l'affectent. Combien je hais cette femme! Comment a-t-elle pu te rendre malheureux? Cependant, c'est à ce malheur que je dois ma félicité. Ses larmes se séchèrent tout à coup. « Caroline, espérons !» s'écria Roger en prenant un baiser. « Ne t'effraie pas de ce qu'a pu dire cet abbé. Quoique ce confesseur de ma femme soit un homme redoutable par son influence dans la congrégation, s'il essayait de troubler notre bonheur, je saurais prendre un parti. Que ferais-tu ? Nous irions en Italie, je fuirais. » Un cri, jeté dans le salon voisin, fit à la fois frissonner le comte de Granville et trembler mademoiselle de Bellefeuille, qui se précipitèrent dans le salon et y trouvèrent la comtesse évanouie. Quand madame de Granville reprit ses sens, elle soupira profondément en se voyant entre le comte et sa rivale, qu'elle repoussa par un geste involontaire plein de mépris. Mademoiselle de Bellefeuille se leva pour se retirer. « Vous êtes chez vous, madame, restez, » dit Granville en arrêtant Caroline par le bras. Le magistrat saisit sa femme mourante, la porta jusqu'à sa voiture et y monta près d'elle. « Qui donc a pu vous amener à désirer ma mort, à me fuir ?» demanda la comtesse d'une voix faible en contemplant son mari avec autant d'indignation que de douleur. « N'étais-je pas jeune ? Vous m'avez trouvée belle ? Qu'avez-vous à me reprocher ? Vous ai-je trompée ? N'ai-je pas été une épouse vertueuse et sage ? Mon cœur n'a conservé que votre image, mes oreilles n'ont entendu que votre voix. À quel devoir ai-je manqué ? Que vous ai-je refusé ? Le bonheur, répondit le comte d'une voix ferme. Vous le savez, madame, il est deux manières de servir Dieu. Certains chrétiens s'imaginent qu'en entrant à des heures fixes dans une église pour y dire des paternostères, en y entendant régulièrement la messe et s'abstenant de tout péché, ils gagneront le ciel. Ceux-là, madame, vont en enfer. Ils n'ont point aimé Dieu pour lui-même, ils ne l'ont point adoré comme il veut l'être, ils ne lui ont fait aucun sacrifice. Quoique doux en apparence, ils sont durs à leur prochain. Ils voient la règle, la lettre, et non l'esprit. Voilà comme vous en avez agi avec votre époux terrestre. Vous avez sacrifié mon bonheur à votre salut. Vous étiez en prière quand j'arrivais à vous le cœur joyeux. Vous pleuriez quand vous deviez égayer mes travaux. Vous n'avez su satisfaire à aucune exigence de mes plaisirs. « Et s'ils étaient criminels, s'écria la comtesse avec feu, fallait-il donc perdre mon âme pour vous plaire ? C'eût été un sacrifice qu'une autre plus aimante a eu le courage de me faire, » dit froidement Granville. « Oh mon Dieu !» s'écria-t-elle en pleurant. « Tu l'entends ? Était-il digne des prières et des austérités au milieu desquelles je me suis consumée pour racheter ses fautes et les miennes ? À quoi sert la vertu ? À gagner le ciel, ma chère. On ne peut être à la fois l'épouse d'un homme et celle de Jésus-Christ. Il y aurait bigamie. Il faut savoir opter entre un mari et un couvent. Vous avez dépouillé votre âme au profit de l'avenir, de tout l'amour, de tout le dévouement que Dieu vous ordonnait d'avoir pour moi, et vous n'avez gardé au monde que des sentiments de haine. « Ne vous ai-je donc point aimé ? » demanda-t-elle. « Non, madame. »« Qu'est-ce donc que l'amour ? » demanda involontairement la comtesse. « L'amour, ma chère, » répondit Granville avec une sorte de surprise ironique. « Vous n'êtes pas en état de le comprendre. Le ciel froid de la Normandie ne peut pas être celui de l'Espagne. Sans doute la question des climats est le secret de notre malheur. » Se plier à nos caprices, les deviner, trouver des plaisirs dans une douleur, nous sacrifier l'opinion du monde, l'amour-propre, la religion même, et ne regarder ces offrandes que comme des grains d'encens brûlés en l'honneur de l'idole, voilà l'amour. « L'amour des filles de l'opéra, » dit la comtesse avec horreur. « De tels feux doivent être peu durables, et ne vous laisser bientôt que des cendres ou des charbons, des regrets ou du désespoir. Une épouse, monsieur, doit vous offrir, à mon sens, une amitié vraie, une chaleur égale, et vous parlez de chaleur comme les nègres parlent de la glace, » répondit le comte avec un sourire sardonique. « Songez que la plus humble de toutes les pâquerettes est plus séduisante que la plus orgueilleuse et la plus brillante des épines roses qui nous attirent au printemps par leur pénétrant parfum et leur vive couleur. D'ailleurs, ajouta-t-il, Je vous rends justice. Vous vous êtes si bien tenu dans la ligne du devoir apparent prescrit par la loi que, pour vous démontrer en quoi vous avez failli à mon égard, il faudrait entrer dans certains détails que votre dignité ne saurait supporter, et vous instruire de choses qui vous sembleraient le renversement de toute morale. Vous osez parler de morale en sortant de la maison où vous allez dissiper la fortune de vos enfants dans un lieu de débauche ? S'écria la comtesse que les réticences de son mari rendirent furieuse. « Madame, je vous arrête là, » dit le comte avec sang-froid en interrompant sa femme. « Si mademoiselle de Bellefeuille est riche, elle ne l'est aux dépens de personne. Mon oncle était maître de sa fortune. Il avait plusieurs héritiers. De son vivant et par pure amitié pour celle qu'il considérait comme une nièce, il lui a donné sa terre de Bellefeuille. Quant au reste, je le tiens de ses libéralités. » « Cette conduite est digne d'un jacobin, » s'écria la pieuse Angélique. « Madame, vous oubliez que votre père fut un de ces jacobins, que vous, femme, condamnez avec si peu de charité, » dit sévèrement le comte. « Le citoyen Bontemps a signé des arrêts de mort dans le temps où mon oncle n'a rendu que des services à la France. » Madame de Granville se tut. Mais, après un moment de silence, le souvenir de ce qu'elle venait de voir réveillant dans son âme une jalousie que rien ne saurait éteindre dans le cœur d'une femme, elle dit à voix basse et comme si elle se parlait à elle-même, « Peut-on perdre ainsi son âme et celle des autres ?»« Eh, madame, » reprit le comte fatigué de cette conversation, « peut-être est-ce vous qui répondrez un jour de tout ceci ?» Cette parole fit trembler la comtesse. Vous serez sans doute excusé aux yeux du juge indulgent qui appréciera nos fautes, dit-il, par la bonne foi avec laquelle vous avez accompli mon malheur. Je ne vous hais point. Je hais les gens qui ont faussé votre cœur et votre raison. Vous avez prié pour moi, comme mademoiselle de Bellefeuille m'a donné son cœur et m'a comblé d'amour. Vous deviez être tour à tour et ma maîtresse et la sainte priant au pied des autels. Rendez-moi cette justice d'avouer que je ne suis ni pervers ni débauché. Mes mœurs sont pures. Hélas, au bout de 7 années de douleur, le besoin d'être heureux m'a, par une pente insensible, conduit à aimer une autre femme que vous, à me créer une autre famille que la mienne. Ne croyez pas d'ailleurs que je sois le seul. Il existe dans cette ville des milliers de mariés amenés tous, par des causes diverses, à cette double existence. « Grand Dieu !» s'écria la comtesse, « combien ma croix est devenue lourde à porter. Si l'époux que tu m'as imposé dans ta colère ne peut trouver ici-bas de félicité que par ma mort, rappelle-moi dans ton sein. Si vous aviez eu toujours de si admirables sentiments et ce dévouement, nous serions encore heureux, dit froidement le comte. Eh bien, reprit Angélique en versant un torrent de larmes, pardonnez-moi si j'ai pu commettre des fautes. Oui, monsieur, je suis prête à vous obéir en tout, certaine que vous ne désirerez rien que de juste et de naturel. Je serai désormais tout ce que vous voudrez que soit une épouse. Madame, si votre intention est de me faire dire que je ne vous aime plus, j'aurai l'affreux courage de vous éclairer. Puis-je commander à mon cœur? Puis-je effacer en un instant les souvenirs de 15 années de douleur? Je n'aime plus. » Ces paroles enferment un mystère tout aussi profond que celui contenu dans le mot « j'aime ». L'estime, la considération, les égards s'obtiennent, disparaissent, reviennent. Mais quant à l'amour, je me prêcherai 1000 ans que je ne le ferai pas renaître, surtout pour une femme qui s'est vieillie à plaisir. Ah, monsieur le comte, je désire bien sincèrement que ces paroles ne vous soient pas prononcées un jour par celle que vous aimez, avec le ton et l'accent que vous y mettez. Voulez-vous porter ce soir une robe à la grecque et venir à l'opéra ? Le frisson que cette demande causa soudain à la comtesse fut une muette réponse. Fin de la 35e section. Section des scènes de la vie privée, tome 1. Une double famille. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scène de la vie privée, tome 1. Une double famille. Par Honoré de Balzac. 36e section. Dans les premiers jours du mois de décembre 1829, un homme dont les cheveux entièrement blanchis et la physionomie semblaient annoncer qu'il était plutôt vieilli par les chagrins que par les années car il paraissait avoir environ 60 ans, passait à minuit par la rue de Gaillon. Arrivé devant une maison de peu d'apparence et haute de 2 étages, il s'arrêta pour y examiner une des fenêtres élevées en mansarde à des distances égales au milieu de la toiture. Une faible lueur colorait à peine cette humble croisée dont quelques-uns des carreaux avaient été remplacés par du papier. Le passant regardait cette clarté vacillante avec l'indéfinissable curiosité des flâneurs parisiens lorsqu'un jeune homme sortit tout à coup de la maison. Comme les pâles rayons du réverbère frappaient la figure du curieux, il ne paraîtra pas étonnant que, malgré la nuit, le jeune homme s'avança vers le passant avec ces précautions dont on use à Paris quand on craint de se tromper en rencontrant une personne de connaissance. « Et quoi ? » s'écria-t-il. « C'est vous, monsieur le président ? Seul ? À pied ? À cette heure ? Et si loin de la rue Saint-Lazare ? Permettez-moi d'avoir l'honneur de vous offrir le bras. Le pavé ce matin est si glissant que si nous ne nous soutenions pas l'un l'autre, dit-il afin de ménager l'amour-propre du vieillard, il nous serait bien difficile d'éviter une chute. Mais, mon cher monsieur, je n'ai encore que 50 ans. Malheureusement pour moi, répondit le comte de Granville. Un médecin, promis comme vous à une haute célébrité, doit savoir qu'à cet âge un homme est dans toute sa force. Vous êtes donc alors en bonne fortune, reprit Horace Bianchon. Vous n'avez pas, je pense, l'habitude d'aller à pied dans Paris, quand on a d'aussi beaux chevaux que les vôtres. Mais la plupart du temps, répondit le président Granville, quand je ne vais pas dans le monde, je reviens du Palais-Royal ou du chez Monsieur de Livry à pied. Et en portant sans doute sur vous de fortes sommes, s'écria le jeune docteur. N'est-ce pas appelé le poignard des assassins ?
Je ne crains pas cela, répliqua le comte de Granville d'un air triste et insouciant.
Mais du moins l'on ne s'arrête pas, reprit le médecin en entraînant le magistrat vers le boulevard.
Encore un peu, je croirai que vous voulez me voler votre dernière maladie et mourir d'une autre main que de la mienne.
Ah, vous m'avez surpris faisant de l'espionnage, répondit le comte. Soit que je passe à pied ou en voiture, et à telle heure, que ce puisse être de la nuit, j'aperçois depuis quelque temps à une fenêtre du 3e étage de la maison d'où vous sortez l'ombre d'une personne qui paraît travailler avec un courage héroïque. À ces mots, le comte fit une pause, comme s'il eût senti quelque douleur soudaine. « J'ai pris pour ce grenier, dit-il en continuant, autant d'intérêt qu'un bourgeois de Paris peut en porter à l'achèvement du Palais-Royal. » « Eh bien, s'écria vivement Horace en interrompant le comte, je puis vous... Ne me dites rien, répliqua Granville en coupant la parole à son médecin. Je ne donnerai pas un centime pour apprendre si l'ombre qui s'agite sur ces rideaux troués est celle d'un homme ou d'une femme, et si l'habitant de ce grenier est heureux ou malheureux. Si j'ai été surpris de ne plus voir personne travaillant ce soir, si je me suis arrêté, c'était uniquement pour avoir le plaisir de former des conjectures aussi nombreuses et aussi niaises que le sont celles que les flâneurs forment à l'aspect d'une construction subitement abandonnée.
Depuis 2 ans, mon jeune... Le comte parut hésiter à employer une expression, mais il fit un geste et s'écria « Non, je ne vous appellerai pas mon ami. Je déteste tout ce qui peut ressembler à un sentiment. Depuis 2 ans, donc, je ne m'étonne plus que les vieillards se plaisent tant à cultiver des fleurs, à planter des arbres. Les événements de la vie leur ont appris à ne plus croire aux affections humaines. Et, en peu de temps, je suis devenu vieillard. » Je ne veux plus m'attacher qu'à des animaux qui ne raisonnent pas, à des plantes, à tout ce qui est extérieur. Je fais plus de cas des mouvements de la Taglioni que de tous les sentiments humains. J'abhorre la vie et un monde où je suis seul. Rien, rien, ajouta le comte avec une expression qui fit tressaillir le jeune homme, non, rien ne m'émeut et rien ne m'intéresse. Vous avez des enfants ? Mes enfants ? Reprit-il avec un singulier accent d'amertume. « Eh bien, l'aînée de mes 2 filles n'est-elle pas comtesse de Vandenesse ? Quant à l'autre, le mariage de son aîné lui prépare une belle alliance. Quant à mes 2 fils, n'ont-ils pas très bien réussi ? Le vicomte est avocat général à Limoges, et le cadet est substitut à Versailles. Mes enfants ont leurs soins, leurs inquiétudes, leurs affaires. Si parmi ces cœurs, un seul se fût entièrement consacré à moi, s'il eût essayé, par son affection de combler le vide que je sens là, dit-il en frappant sur son sein, eh bien, celui-là aurait manqué sa vie, il me l'aurait sacrifié. Et pourquoi, après tout? Pour embellir quelques années qui me restent? Y serait-il parvenu? N'aurais-je pas peut-être regardé ses soins généreux comme une dette? Mais... Ici, le vieillard se prit à sourire avec une profonde ironie. Mais, docteur, ce n'est pas en vain que nous leur apprenons l'arithmétique, et ils savent calculer. En ce moment, ils attendent peut-être ma succession. Oh, monsieur le comte, comment cette idée peut-elle vous venir, à vous si bon, si obligeant, si humain? En vérité, si je n'étais pas moi-même une preuve vivante de cette bienfaisance que vous concevez si belle et si large, pour mon plaisir, reprit vivement le comte, je paye une sensation comme je paierai demain d'un monceau d'or la plus puérile des illusions qui me remuait le cœur. Je secours mes semblables pour moi par la même raison que je vais au jeu. Aussi ne comptais-je sur la reconnaissance de personne. Vous-même, je vous verrai mourir sans sourciller, et je vous demande le même sentiment pour moi. Ah, jeune homme, les événements de la vie ont passé sur mon cœur comme les laves du Vésuve sur Herculanum. La ville existe, morte. Ceux qui ont amené à ce point d'insensibilité une âme aussi chaleureuse et aussi vivante que l'était la vôtre sont bien coupables. N'ajoutez pas un mot, reprit le comte avec un sentiment d'horreur. Vous avez une maladie que vous devriez me permettre de guérir, dit Bianchon d'un son de voix plein d'émotion. Mais connaissez-vous donc un remède à la mort? S'écria le comte impatienté. Eh bien, monsieur le comte, je gage ranimer ce cœur que vous croyez si froid. Valez-vous Talma? Demanda ironiquement le président. Non, monsieur le comte, mais la nature est aussi supérieure à Talma que Talma pouvait m'être supérieure. Écoutez, le grenier qui vous intéresse est habité par une femme d'une trentaine d'années, et chez elle, l'amour va jusqu'au fanatisme. L'objet de son culte est un jeune homme d'une jolie figure, mais qu'une mauvaise fée a doué de tous les vices possibles. Ce garçon est joueur, et je ne sais ce qu'il aime le mieux des femmes ou du vin. Il a fait à ma connaissance des bassesses dignes de la police correctionnelle. Eh bien, cette malheureuse femme lui a sacrifié une très belle existence. Un homme par qui elle était adorée, de qui elle avait des enfants. Mais qu'avez-vous, monsieur le comte? Rien, continuez. Elle lui a laissé dévorer une fortune entière. Elle lui donnerait, je crois, le monde, si elle le tenait. Et elle travaille nuit et jour, et souvent elle a vu, sans murmurer, ce monstre qu'elle adore, lui ravir jusqu'à l'argent destiné à payer les vêtements dont manquent ses enfants, jusqu'à leur nourriture du lendemain. Il y a 3 jours, elle a vendu ses cheveux, les plus beaux que j'ai jamais vus. Il est venu, et elle n'avait pas pu cacher assez promptement la pièce d'or, il l'a demandée. Pour un sourire, pour une caresse, elle a livré le prix de 15 jours de vie et de tranquillité. N'est-ce pas à la fois horrible et sublime? Mais le travail commence à lui creuser les joues. Les cris de ses enfants lui ont déchiré l'âme, et elle est tombée malade. Elle gémit en ce moment sur un grabat. Ce soir, elle n'avait rien à manger, et ses enfants n'avaient plus la force de crier. Il se taisait quand je suis arrivé. Horace Bianchon s'arrêta. En ce moment, le comte de Granville avait, comme malgré lui, plongé la main dans la poche de son gilet. « Je devine, mon jeune ami, dit le vieillard, comment elle peut vivre encore, si vous la soignez. »« Ah, la pauvre créature, s'écria le médecin, qui ne la secourrait pas? Je voudrais être plus riche, car j'espère la guérir de son amour. » Mais, reprit le comte en retirant de sa poche la main qu'il y avait mise, sans que le médecin la vît pleine des billets que son protecteur semblait y avoir cherchés, « comment voulez-vous que je m'apitoie sur une misère dont les plaisirs ne me sembleraient pas payés trop cher par toute ma fortune ?» Elle sent, elle vit cette femme. Louis XV n'aurait-il pas donné tout son royaume pour pouvoir se relever de son cercueil et avoir 3 jours de jeunesse et de vie? N'est-ce pas là l'histoire d'un milliard de morts, d'un milliard de malades, d'un milliard de vieillards? Pauvre Caroline, s'écria le médecin. En entendant ce nom, le comte de Granville tressaillit. et saisit le bras du médecin qui crut se sentir serré par les deux lèvres en fer d'un étau. « Elle se nomme Caroline Crochard ?» demanda le président d'un son de voix visiblement altéré. « Vous la connaissez donc ?» répondit le docteur avec étonnement. « Et le misérable se nomme Solvay ?»« Ah, vous m'avez tenu parole !» s'écria l'ancien magistrat. « Vous avez agité mon cœur par la plus terrible sensation qu'il éprouvera jusqu'à ce qu'il devienne poussière. Cette émotion est encore un présent de l'enfer, et je sais toujours comment m'acquitter avec lui. » En ce moment, le comte et le médecin étaient arrivés au coin de la rue de la Chaussée-d'Antin. Un de ces enfants de la nuit qui, le dos chargé d'une hotte en osier, et marchant, un crochet à la main, ont été plaisamment nommés, pendant la Révolution, membres du comité des recherches, se trouvaient auprès de la borne devant laquelle le président venait de s'arrêter. Ce chiffonnier avait une vieille figure digne de celle que Charlet a immortalisée dans ses caricatures de l'école du balayeur. « Rencontres-tu souvent des billets de 1000 francs ?» lui demanda le comte. « Quelquefois, notre bourgeois. Et les rends-tu ? C'est selon la récompense promise. » « Voilà, mon homme, » s'écria le comte en présentant au chiffonnier un billet de 1000 francs. « Prends ceci, » lui dit-il, « mais songe que je te le donne à la condition de le dépenser au cabaret, de t'y enivrer, de t'y disputer, de battre ta femme, de crever les yeux à tes amis. » Cela fera marcher la garde, les chirurgiens, les pharmaciens, peut-être les gendarmes, les procureurs du roi, les juges et les geôliers. Ne change rien à ce programme, ou le diable saurait tôt ou tard se venger de toi. Il faudrait qu'un même homme possédât à la fois les crayons de Charlet et ceux de Callot, les pinceaux de Teniers et de Rembrandt, pour donner une idée vraie de cette scène nocturne. Voilà mon compte soldé avec l'enfer. « Et j'ai eu du plaisir pour mon argent, » dit le comte d'un son de voix profond, en montrant au médecin stupéfait la figure indescriptible du chiffonnier béant. « Quant à Caroline Crochard, » reprit-il, « elle peut mourir dans les horreurs de la faim et de la soif, en entendant les cris déchirants de ses fils mourants, en reconnaissant la bassesse de celui qu'elle aime. Je ne donnerai pas un denier pour l'empêcher de souffrir, et je ne veux plus vous voir par cela seul que vous l'avez secourue. » Le comte laissa Bianchon plus immobile qu'une statue et disparut en se dirigeant avec la précipitation d'un jeune homme vers la rue Saint-Lazare, où il atteignit promptement le petit hôtel qu'il habitait et à la porte duquel il vit non sans surprise une voiture arrêtée. « Monsieur le baron, dit le valet de chambre à son maître, est arrivé, il y a une heure pour parler à monsieur et l'attend dans sa chambre à coucher. » Granville fit signe à son domestique de se retirer. « Quel motif assez important vous oblige d'enfreindre l'ordre que j'ai donné à mes enfants, de ne pas venir chez moi sans y être appelé ?» dit le vieillard à son fils en entrant. « Mon père, » répondit le jeune homme d'un son de voix tremblant et d'un air respectueux, « j'ose espérer que vous me pardonnerez quand vous m'aurez entendu. »« Votre réponse est celle d'un magistrat, » dit le comte. « Asseyez-vous. » Il montra un siège au jeune homme. « Mais, » reprit-il, « que je marche ou que je reste assis, ne vous occupez pas de moi. » « Mon père, » reprit le baron, « ce soir, à 4 heures, un très jeune homme arrêté chez un de mes amis, au préjudice duquel il a commis un vol assez considérable, s'est réclamé de vous. Il se prétend votre fils. » « Il se nomme, » demanda le comte en tremblant, « Charles Crochard. » « Assez, » dit le père en faisant un geste impératif. Granville se promena dans la chambre au milieu d'un profond silence que son fils se garda bien d'interrompre. « Mon fils !» Ces paroles furent prononcées d'un ton si doux et si paternel que le jeune magistrat en tressaillit. « Charles Crochard vous a dit la vérité. Je suis content que tu sois venu ce soir, mon bon Eugène, » ajouta le vieillard. « Voici une somme d'argent assez forte, » dit-il en lui présentant une masse de billets de banque. « Tu en feras l'usage que tu jugeras convenable dans cette affaire. Je me fie à toi, et j'approuve d'avance toutes tes dispositions, soit pour le présent, soit pour l'avenir. Eugène, mon cher enfant, viens m'embrasser. Nous nous voyons peut-être pour la dernière fois. Demain, je demande un congé, je pars pour l'Italie. Si un père ne doit pas compte de sa vie à ses enfants, il doit leur léguer l'expérience que lui a vendue le sort. N'est-ce pas une partie de leur héritage? Quand tu te marieras, reprit le comte en laissant échapper un frissonnement involontaire, n'accomplit pas légèrement cet acte, le plus important de tous ceux auxquels nous oblige la société. Souviens-toi d'étudier longtemps le caractère de la femme avec laquelle tu dois t'associer. Mais consulte-moi, je veux la juger moi-même. Le défaut d'union entre deux époux, par quelque cause qu'il soit produit, amène d'effroyables malheurs. Nous sommes, tôt ou tard, punis de n'avoir pas obéi aux lois sociales. Je t'écrirai de Florence à ce sujet. Un père, surtout quand il est magistrat, ne doit pas rougir devant son fils. Adieu. Paris, février-mars 1830. Fin de la 36e section. Section des scènes de la vie privée, tome 1. La paix du ménage. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1. La paix du ménage, par Honoré de Balzac. 37e section. Dédié à ma chère nièce, Valentine Surville. L'aventure retracée par cette scène se passa vers la fin du mois de novembre 1809, moment où le fugitif empire de Napoléon atteignit à l'apogée de sa splendeur. Les fanfares de la victoire de Wagram retentissaient encore au cœur de la monarchie autrichienne. La paix se signait entre la France et la coalition. Les rois et les princes vinrent alors, comme des astres, accomplir leurs évolutions autour de Napoléon qui se donna le plaisir d'entraîner l'Europe à sa suite, magnifique essai de la puissance qu'il déploya plus tard à Dresde. Jamais, au dire des contemporains, Paris ne vit de plus belles fêtes que celles qui précédèrent et suivirent le mariage de ce souverain avec une archiduchesse d'Autriche. Jamais, au plus grand jour de l'ancienne monarchie, autant de têtes couronnées ne se pressèrent sur les rives de la Seine, et jamais l'aristocratie française ne fut aussi riche ni aussi brillante qu'alors. Les diamants répandus à profusion sur les parures, les broderies d'or et d'argent des uniformes contrastaient si bien avec l'indigence républicaine qu'il semblait voir les richesses du globe roulant dans les salons de Paris. Une ivresse générale avait comme saisi cet empire d'un jour. Tous les militaires, sans en excepter leur chef, jouissait en parvenu des trésors conquis par 1 million d'hommes à épaulettes de laine dont les exigences étaient satisfaites avec quelques zones de rubans rouges. À cette époque, la plupart des femmes affichaient cette aisance de mœurs et ce relâchement de morale qui signalèrent le règne de Louis XV. Soit pour imiter le ton de la monarchie écroulée, soit que certains membres de la famille impériale eussent donné l'exemple, ainsi que le prétendaient les frondeurs du faubourg Saint-Germain, il est certain que, hommes et femmes, tous se précipitaient dans le plaisir avec une intrépidité qui semblait présager la fin du monde. Mais il existait alors une autre raison de cette licence. L'engouement des femmes pour les militaires devint comme une frénésie et concorda trop bien aux vues de l'empereur pour qu'il y mît un frein. Les fréquentes prises d'armes qui firent ressembler tous les traités conclus entre l'Europe et Napoléon à des armistices exposaient les passions à des dénouements aussi rapides que les décisions du chef suprême de ses colbacs, de ses dolmans et de ses aiguillettes qui plurent tant au beau sexe. Les cœurs furent donc alors nomades comme les régiments. D'un premier à un cinquième bulletin de la grande armée, une femme pouvait être successivement amante, épouse, mère et veuve. Était-ce la perspective d'un prochain veuvage, celle d'une dotation ou l'espoir de porter un nom promis à l'histoire qui rendirent les militaires si séduisants? Les femmes furent-elles entraînées vers eux par la certitude que le secret de leur passion serait enterré sur les champs de bataille, ou doit-on chercher la cause de ce doux fanatisme dans le noble attrait que le courage a pour elle? Peut-être ces raisons, que l'historien futur des mœurs impériales s'amusera sans doute à peser, entraient-elles toutes pour quelque chose dans leur facile promptitude à se livrer aux amours. Quoi qu'il en puisse être, avouons-le, nous ici, les lauriers couvrirent alors bien des fautes. Les femmes recherchèrent avec ardeur ces hardis aventuriers qui leur paraissaient de véritables sources d'honneur, de richesse ou de plaisir. Et aux yeux des jeunes filles, une épaulette, cet hiéroglyphe futur, signifia bonheur et liberté. Un trait de cette époque unique dans nos annales, et qui la caractérise, fut une passion effrénée pour tout ce qui brillait. Jamais on ne donna tant de feux d'artifice, jamais le diamant n'atteignit à une si grande valeur. Les hommes aussi avides que les femmes de ces cailloux blancs s'en paraient comme elles. Peut-être l'obligation de mettre le butin sous la forme la plus facile à transporter mit-elle les joyaux en honneur dans l'armée. Un homme n'était pas aussi ridicule qu'il le serait aujourd'hui quand le jabot de sa chemise ou ses doigts offraient au regard de gros diamants. Murat, homme tout oriental, donna l'exemple d'un luxe absurde chez les militaires modernes. Le comte de Gondreville, l'un des Lucullus de ce sénat conservateur, qui ne conserva rien, n'avait retardé sa fête en l'honneur de la paix que pour mieux faire sa cour à Napoléon, en s'efforçant d'éclipser les flatteurs par lesquels il avait été prévenu. Les ambassadeurs de toutes les puissances amies de la France sous bénéfice d'inventaire, les personnages les plus importants de l'Empire, quelques princes même, étaient en ce moment réunis dans les salons de l'opulent sénateur. La danse languissait. Chacun attendait l'empereur dont la présence était promise par le comte. Napoléon aurait tenu parole sans la scène qui éclata le soir même entre Joséphine et lui, scène qui révéla le prochain divorce de ses augustes époux. La nouvelle de cette aventure, alors tenue fort secrète, mais que l'histoire recueillait, ne parvint pas aux oreilles des courtisans, et n'influa pas autrement que par l'absence de Napoléon sur la gaieté de la fête du comte de Gondreville. Les plus jolies femmes de Paris, empressées de se rendre chez lui sur la foi du oui-dire, y faisaient en ce moment assaut de luxe, de coquetterie, de parure et de beauté. Orgueilleuse de ses richesses, la banque y défiait ses éclatants généraux et ses grands officiers de l'Empire, nouvellement gorgés de croix, de titres et de décorations. Ces grands bals étaient toujours des occasions saisies par des riches familles pour y produire leurs héritières aux yeux des prétoriens de Napoléon, dans le fol espoir d'échanger leurs magnifiques dots contre une faveur incertaine. Les femmes qui se croyaient assez fortes de leur seule beauté venaient en essayer le pouvoir. Là, comme ailleurs, le plaisir n'était qu'un masque. Les visages sereins et riants, les fronts calmes y couvraient d'odieux calculs. Les témoignages d'amitié mentaient, et plus d'un personnage se défiait moins de ses ennemis que de ses amis. Ces observations étaient nécessaires pour expliquer les événements du petit imbroglio, sujet de cette scène, et la peinture, quelque adoucie qu'elle soit, du ton qui régnait alors dans les salons de Paris. Tournez un peu les yeux vers cette colonne brisée qui supporte un candélabre. Apercevez-vous une jeune femme coiffée à la chinoise? Là, dans le coin, à gauche. Elle a des clochettes bleues dans le bouquet de cheveux châtains qui retombent en gerbe sur sa tête. Ne voyez-vous pas? Elle est si pâle qu'on la croirait souffrante. Elle est mignonne et toute petite. Maintenant, elle tourne la tête vers nous. Ses yeux bleus, fendus en amande et doux à ravir, semblent faits exprès pour pleurer. Mais tenez donc, elle se baisse pour regarder Madame de Vaudremont à travers ce dédale de tête, toujours en mouvement, dont les hautes coiffures lui interceptent la vue. Ah, j'y suis, mon cher. Tu n'avais qu'à me la désigner comme la plus blanche de toutes les femmes qui sont ici. Je l'aurais reconnue, je l'ai déjà bien remarquée. Elle a le plus beau teint que j'ai jamais admiré.
D'ici, je te défie de distinguer sur son cou les perles qui séparent chacun des saphirs de son collier. Mais elle doit avoir ou des mœurs ou de la coquetterie, car à peine les ruches de son corsage permettent-elles de soupçonner la beauté des contours. Quelles épaules! Quelle blancheur de lys!
Qui est-ce? Demanda celui qui avait parlé le premier.
Ah, je ne sais pas.
Aristocrate? Vous voulez donc, mon cornet, les garder toutes pour vous?
Cela te sied bien de me goguenarder, reprit mon cornet en souriant.
Te crois-tu le droit d'insulter un pauvre général comme moi, parce que, rival heureux de Soulanges, tu ne fais pas une seule pirouette qui n'alarme madame de Vaudremont? Ou bien est-ce parce que je ne suis arrivé que depuis un mois dans la terre promise? Êtes-vous insolent? Vous autres administrateurs qui restez collés sur vos chaises pendant que nous sommes au milieu des obus. Allons, monsieur le maître des requêtes, laissez-nous glaner dans le champ dont la possession précaire ne vous reste qu'au moment où nous le quittons. Et, diantre, il faut que tout le monde vive, mon ami. Si tu connaissais les Allemandes, tu me servirais, je crois, auprès de la Parisienne qui t'est chère.
Général, puisque vous avez honoré de votre attention cette femme, que j'aperçois ici pour la première fois, ayez donc la charité de me dire si vous l'avez vue dansant.
Eh, mon cher Martial, d'où viens-tu?
Si l'on t'envoie en ambassade, j'augure mal de tes succès. Ne vois-tu pas trois rangées des plus intrépides coquettes de Paris, entre elles et les seins de danseurs qui bourdonnent sous le lustre, et ne t'a-t-il pas fallu l'aide de ton lorgnon pour la découvrir? À l'angle de cette colonne où elle semble enterrée dans l'obscurité malgré les bougies qui brillent au-dessus de sa tête?
Entre elle et nous, tant de diamants et tant de regards scintillent, tant de plumes flottent, tant de dentelles, de fleurs et de tresses ondoient, que ce serait un vrai miracle si quelque danseur pouvait l'apercevoir au milieu de ces astres.
Comment, Martial? Tu n'as pas deviné la femme de quelque sous-préfet de la Lippe ou de la Dille qui vient essayer de faire un préfet de son mari?
Oh, il le sera, dit vivement le maître des requêtes.
J'en doute, reprit le colonel de cuirassier en riant. Elle paraît aussi neuve en intrigue que tu l'es en diplomatie. Je gage, Martial, que tu ne sais pas comment elle se trouve là.
Le maître des requêtes regarda le colonel des cuirassiers de la garde d'un air qui décelait autant de dédain que de curiosité.
« Eh bien, dit Montcornet en continuant, elle sera sans doute arrivée à 9 heures précises, la première, peut-être, et probablement aura fort embarrassé la comtesse de Gondreville, qui ne sait pas coudre deux idées. Rebutée par la dame du logis, repoussée de chaise en chaise par chaque nouvelle arrivée jusque dans les ténèbres de ce petit coin, elle s'y sera laissée enfermer, victime de la jalousie de ces dames, qui n'auront pas demandé mieux que d'ensevelir ainsi cette dangereuse figure. Elle n'aura pas eu d'amis pour l'encourager à défendre la place qu'elle a dû occuper d'abord sur le premier plan. Chacune de ces perfides danseuses aura intimé l'ordre aux hommes de sa coterie de ne pas engager notre pauvre ami sous peine des plus terribles punitions.
Voilà, mon cher, comment ces minois si tendres, si candides, en apparence, auront formé leur coalition contre l'inconnu. Et cela sans qu'aucune de ces femmes-là se soit dit autre chose que « Connaissez-vous, ma chère, cette petite dame bleue ?»
Tiens, Martial, si tu veux être accablé en un quart d'heure de plus de regards flatteurs et d'interrogations provocantes que tu n'en recevras peut-être dans toute ta vie, essaye de vouloir percer le triple rempart qui défend la reine de la Dille, de la Lippe ou de la Charente. Tu verras si la plus stupide de ces femmes ne sera pas inventée aussitôt une ruse capable d'arrêter l'homme le plus déterminé à mettre en lumière notre plaintive inconnue.
Ne trouves-tu pas qu'elle a un peu l'air d'une élégie?
Vous croyez, mon cornet, ce serait donc une femme mariée.
Pourquoi ne serait-elle pas veuve?
Elle serait plus active, dit en riant le maître des requêtes.
Peut-être est-ce une veuve dont le mari joue à la bouillotte, répliqua le beau cuirassier.
En effet, depuis la paix, il se fait tant de ces sortes de veuves, répondit Martial.
Mais, mon cher Montcornet, nous sommes de niais. Cette tête exprime encore trop d'ingénuité. Il respire encore trop de jeunesse et de verdeur sur le front et autour des tempes pour que ce soit une femme. Quel vigoureux ton de carnation! Rien n'est flétri dans les méplats du nez. Les lèvres, le menton, tout dans cette figure est frais comme un bouton de rose blanche, quoique la physionomie en soit comme voilée par les nuages de la tristesse. Qui peut faire pleurer cette jeune personne?
Les femmes pleurent pour si peu de choses, dit le colonel.
Je ne sais, reprit Martial, mais elle ne pleure pas d'être là sans danser. Son chagrin ne date pas d'aujourd'hui. L'on voit qu'elle s'est faite belle pour ce soir, par préméditation. Elle aime déjà, je le parierai.
Bah, peut-être est-ce la fille de quelque princillon d'Allemagne?
Personne ne lui parle, dit Montcornet.
Ah, combien une pauvre fille est malheureuse, reprit Martial. A-t-on plus de grâce et de finesse que notre petite inconnue?
Eh bien, pas une des mégères qui l'entourent et qui se disent sensibles ne lui adressera la parole. Si elle parlait, nous verrions si c'est dans son bel.
Ah ça, tu t'emportes donc comme le lait à la moindre élévation de température, s'écria le colonel un peu piqué de rencontrer si promptement un rival dans son ami.
Comment ? Dit le maître des requêtes sans s'apercevoir de l'interrogation du général et en dirigeant son lorgnon sur tous les personnages qui les entouraient.
Comment ? Personne ici ne pourra nous nommer cette fleur exotique.
Et c'est quelque demoiselle de compagnie, lui dit Montcornet.
Bon, une demoiselle de compagnie parée de saphir digne d'une reine et une robe de maline ?
À d'autres, général. Vous ne serez pas non plus très fort en diplomatie si dans vos évolutions vous passez en un moment de la princesse allemande à la demoiselle de compagnie.
Le général Montcornet arrêta par le bras un petit homme gras, dont les cheveux grisonnants et les yeux spirituels se voyaient à toutes les encoignures de porte, et qui se mêlait sans cérémonie aux différents groupes où il était respectueusement accueilli.
« Gondreville, mon cher ami, lui dit Montcornet, quelle est donc cette charmante petite femme assise là-bas sous cet immense candélabre ?»«
Le candélabre ?»«
Ravrio, mon cher, Isabée en a donné le dessin. »
« Oh, j'ai déjà reconnu ton goût et ton faste dans le meuble, mais la femme ?»«
Ah, je ne la connais pas. C'est sans doute une amie de ma femme. »«
Ou ta maîtresse, vieux sournois ?»«
Non, parole d'honneur. » »« La comtesse de Gondreville est la seule femme capable d'inviter des gens que personne ne connaît. »
Malgré cette observation pleine d'aigreur, le gros petit homme conserva sur ses lèvres le sourire de satisfaction intérieure que la supposition du colonel des cuirassiers y avait fait naître. Celui-ci rejoignit dans un groupe voisin le maître des requêtes, occupé alors à y chercher, mais en vain, des renseignements sur l'inconnu. Il le saisit par le bras et lui dit à l'oreille « Mon cher Martial, prends garde à toi. Madame de Vaudremont te regarde depuis quelques minutes avec une attention désespérante, et les femmes à deviner au mouvement seul de tes lèvres ce que tu me dirais. Nos yeux n'ont été déjà que trop significatifs. Elle en a très bien aperçu et suivi la direction, et je la crois en ce moment plus occupée que nous-mêmes de la petite dame bleue. »
Vieille ruse de guerre, mon cher Montcornet. Que m'importe d'ailleurs? Je suis comme l'empereur. Quand je fais des conquêtes, je les garde.
Martial, ta fatuité cherche des leçons.
Comment?
Pékin. Tu as le bonheur d'être le mari désigné de madame de Vaudremont, d'une veuve de 22 ans affligée de 4 000 napoléons de rente, d'une femme qui te passe au doigt des diamants aussi beaux que celui-ci, ajouta-t-il en prenant la main gauche du maître des requêtes, qui la lui abandonna complaisamment, et tu as encore la prétention de faire le Lovelace comme si tu étais colonel et obligé de soutenir la réputation militaire dans les garnisons?
Fi! Mais réfléchis donc à tout ce que tu peux perdre.
Je ne perdrai pas du moins ma liberté, répliqua Martial en riant forcément. Il jeta un regard passionné à madame de Vaudremont qui n'y répondit que par un sourire plein d'inquiétude, car elle avait vu le colonel examinant la bague du maître des requêtes. Écoute, Martial, reprit le colonel, si tu voltiges autour de ma jeune inconnue, j'entreprendrai la conquête de madame de Vaudremont. Permis à vous, cher cuirassier, mais vous n'obtiendrez pas cela, dit le jeune maître des requêtes en mettant l'ongle poli de son pouce sous une de ses dents supérieures de laquelle il tira un petit bruit goguenard. Songe que je suis garçon, reprit le colonel, que mon épée est toute ma fortune, et que me défier ainsi, c'est asseoir Tantale devant un festin qu'il dévorera. Prrr. Cette railleuse accumulation de consonnes servit de réponse à la provocation du général, que son ami toisa plaisamment avant de le quitter. La mode de ce temps obligeait un homme à porter au bal une culotte de casimir blanc et des bas de soie. Ce joli costume mettait en relief la perfection des formes de Montcornet, alors âgé de 35 ans, et qui attirait le regard par cette haute taille exigée pour les cuirassiers de la garde impériale, dont le bel uniforme rehaussait encore sa prestance, encore jeune malgré l'embonpoint qu'il devait à l'équitation. Ses moustaches noires ajoutaient à l'expression franche d'un visage vraiment militaire, dont le front était large et découvert, le nez aquilin et la bouche vermeille. Les manières de Montcornet, empreintes d'une certaine noblesse due à l'habitude du commandement, pouvaient plaire à une femme qui aurait eu le bon esprit de ne pas vouloir faire un esclave de son mari. Le colonel sourit en regardant le maître des requêtes, l'un de ses meilleurs amis de collège, et dont la petite taille svelte l'obligea, pour répondre à sa moquerie, de porter un peu bas son coup d'œil amical. Le baron Martial de La Roche-Hugon était un jeune Provençal que Napoléon protégeait et qui semblait promis à quelque fastueuse ambassade. Il avait séduit l'empereur par une complaisance italienne, par le génie de l'intrigue, par cette éloquence de salon et cette science des manières qui remplacent si facilement les éminentes qualités d'un homme solide. Quoique vive et jeune, sa figure possédait déjà l'éclat immobile du fer blanc, l'une des qualités indispensables aux diplomates et qui leur permet de cacher leurs émotions, de déguiser leurs sentiments, si toutefois cette impassibilité n'annonce pas en eux l'absence de toute émotion et la mort des sentiments. On peut regarder le cœur des diplomates comme un problème insoluble, car les trois plus illustres ambassadeurs de l'époque se sont signalés par la persistance de la haine et par des attachements romanesques. Néanmoins, Martial appartenait à cette classe d'hommes capables de calculer leur avenir au milieu de leurs plus ardentes jouissances. Il avait déjà jugé le monde et caché son ambition sous la fatuité de l'homme à bonne fortune, en déguisant son talent sous les livrées de la médiocrité, après avoir remarqué la rapidité avec laquelle s'avançaient les gens qui donnaient peu d'ombrage au maître. Les deux amis furent obligés de se quitter en se donnant une cordiale poignée de main. La ritournelle, qui prévenait les dames de former les quadrilles d'une nouvelle contredanse, chassa les hommes du vaste espace où ils causaient, au milieu du salon. Cette conversation rapide, tenue dans l'intervalle qui sépare toujours les contredanses, eut lieu devant la cheminée du grand salon de l'hôtel Gondreville. Les demandes et les réponses de ce bavardage, assez commun au bal, avaient été comme soufflées par chacun des deux interlocuteurs à l'oreille de son voisin. Néanmoins, les girandoles et les flambeaux de la cheminée répandaient une si abondante lumière sur les deux amis que leurs figures trop fortement éclairées ne purent déguiser, malgré leur discrétion diplomatique, l'imperceptible expression de leurs sentiments, ni à la fine comtesse, ni à la candide inconnue. Cet espionnage de la pensée est peut-être, chez les oisifs, un des plaisirs qu'ils trouvent dans le monde, tandis que tant de niais dupés s'y ennuient sans oser en convenir. Fin de la 37e section.
Most tax pros leave a message.
It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel.
Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price.
This is a tax break. Switch to a TurboTax Live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beatyourprice. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beatyourprice.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.